ce matin, Seigneur. Merci pour ce nom qui est au-dessus de tout nom. Merci pour ton esprit qui convainc de vérité, de justice et de jugement. Merci pour ton nom qui par ton Esprit Saint peut atteindre n'importe qui, Seigneur. Alors Seigneur, te louons ce matin, nous te rendons gloire. Alléluia, Seigneur, que ton Esprit, Seigneur, déborde nos vies et va au-delà de nos murs, Seigneur, là où tu veux aller, là où tu veux nous conduire, Seigneur. Oh Seigneur, bénis ton Église encore ce matin. Nous bénissons aussi les autres églises, Seigneur, ton Église avec un grand E. Merci pour l'Esprit qui en ce moment est répandu abondamment. Tu es généreux, Seigneur, sur toutes les églises, Seigneur. Que ce soit les petites, les grandes, Seigneur. Que ce soit celles qui commencent, que celles qui sont historiques. Oh Seigneur, tu ne regardes pas cela, Seigneur. Tu cherches juste des cœurs ouverts pour recevoir ton Esprit. Alors merci, Seigneur, de bénir les autres communautés de la région de Lausanne. De bénir, Seigneur, ton Église avec un grand E, au-delà de nos frontières, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. On va, je pense, ce chant vraiment est inspiré. Je pense qu'on aura l'occasion de le reprendre tout à l'heure. Voilà. Je crois que ça va vraiment avec ce que je vais vous partager ce matin. Voilà, je vous remercie pour l'équipe. Je vous invite à ce matin à pouvoir nous arrêter pour méditer la parole de Dieu. Amen. Bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. On est très heureux, on pensait qu'on serait un peu moins ce matin avec tous ceux qui sont en week-end, qui sont loin. On n'avait personne pour la scène, on n'avait personne pour ci ou pour ça. Mais Dieu a pourvu, amen. C'est pour nous apprendre à compter sur lui. À compter sur lui. D'ailleurs, Marie-Jo ce matin disait, j'ai demandé à trois personnes nouvelles qui n'ont jamais servi la Sainte-Seine. Je dis, amen, c'est ça l'Église. Ce n'est pas des spécialistes, c'est des gens qui se lèvent, qui sont prêts à servir, qui ont envie de servir, et c'est ça le plus important. J'avais vraiment envie de vous parler, bien sûr, du thème d'aujourd'hui. Vous pensez bien que je ne vais pas vous parler de Pâques ni de Noël. En tout cas, on est loin de Noël avec cette chaleur. J'espère que vous n'avez pas trop chaud dans notre salle. J'avais envie de vous parler ce matin, bien sûr, de la fête de Pentecôte. Qu'est-ce que c'est pour vous la fête de Pentecôte? Est-ce que les gens peuvent me dire qu'est-ce que c'est pour eux la fête de Pentecôte? Ah, c'est bien. Béatrice, tu m'as étonné parce que j'ai... Tu as cassé mon effet surprise. Elle a dit la fête des moissons. Oui, c'est juste. Bien sûr, on l'a dit un peu au début, hein. C'est le don du Saint-Esprit. On est d'accord? C'est aussi quoi, Pentecôte? C'est quoi pour les non-croyants, Pentecôte? C'est un férié, ouais, exactement. Ouais, un jour chômé. Est-ce que vous avez déjà discuté avec des non-croyants pour leur demander qu'est-ce que c'est Pentecôte? Ils ne savent pas souvent, hein. Pâques, ils se disent, ah, c'est peut-être un peu les lapins, les œufs. Souvent, ils sont à côté. Non, c'est la croix. À Noël, bon, ça va, ils se disent, c'est le sapin, le Père Noël. Ils sont aussi assez loin, mais au moins, ils ont quelque chose à dire. Vous êtes d'accord que pour Pentecôte, ils n'ont pas grand-chose à dire, hein, les non-croyants, ceux qui ne connaissent pas la fête. Qu'est-ce que c'est aussi, Pentecôte, bibliquement? Ah, qui c'est qui a dit ça? Ah, ça c'est l'héritage de ton papa aussi, hein. c'est vrai, c'est exactement ça. Bah, c'est super parce que vous êtes vraiment des vrais connaisseurs de la Bible, des fins théologiens. Je vous félicite parce que vous avez en effet donné les trois sens de la fête de Pentecôte, les trois sens que j'aimerais relever ce matin. Ah oui, il faut que je fasse dans ce sens-là peut-être. Voilà, c'est ça, c'est une feuille blanche, les trois sens. Si j'arrive à changer, on a une toute nouvelle, on a changé la petite, je sais pas comment on appelle ça, tapette ou télécommande, ouais mais, parce qu'il faut taper dessus, voilà, voilà, très bien, on y est. Donc, un des sens, d'ailleurs comme on dit Pentecôte en hébreu, on dit Shavuot, c'est un des sens de Pentecôte, c'est le nom Pentecôte en hébreu. Shavuot, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la fête des moissons. C'est-à-dire que c'est une fête peut-être qu'on a un peu oubliée, justement, qu'on ne pratique pas, qui est décrite dans Lévitique 23, parmi les fêtes de l'Éternel, mais aussi dans Exode. C'est-à-dire qu'on apporte les prémices de la récolte. Ça veut dire que c'est le début de la moisson. Il y a les premiers blés qui commencent à mûrir, il y a peut-être les premiers fruits. et on les apporte au temple, on les apporte aux prêtres comme un sacrifice, qu'on apporte ça au Seigneur. Et cette fête-là, Shavuot, a lieu exactement 50 jours après Pâques. Et là, on peut faire un pont avec notre Pentecôte, puisque le mot Pentecôte en grec veut dire dans 50e. Pentecôte, c'est vraiment littéralement 50e en grec. Donc, Shavuot, dans l'Ancien Testament, venait 50 jours après Pâques. Et la traduction littérale de Shavuot, si on traduit littéralement ce que ça veut dire Shavuot, ça ne veut pas dire Pentecôte en français, ça veut dire la fête des semaines. Ça veut dire que c'était 7 semaines après Pâques. Et comme vous êtes des bons mathématiciens, 7 fois 7, 49. Donc Pentecôte, c'est plus 1, c'est le 50e jour. Shavuot, c'est la fête des semaines ou la fête des moissons. C'est comme ça que la Bible nous le dit. Ça, c'est une tradition de ce qu'est Pentecôte, et ce qui est encore dans nos Bibles aujourd'hui, qui est une fête agricole, en fait, si on réfléchit. Un autre sens de Pentecôte, c'est comment le judaïsme l'a développé, le judaïsme rabbinique. Et les Juifs d'aujourd'hui fêtent Pentecôte dans ce sens-là. D'ailleurs, ils ne l'appellent pas Pentecôte, Shavuot, ils l'appellent Atzeret. C'est le langage dans le Talmud pour parler de Pentecôte. C'est le mot en hébreu pour dire Pentecôte. Et en fait, pour les Juifs, Pentecôte, ce n'est pas le don du Saint-Esprit, c'est le don de la Torah. C'est quand Moïse monte sur le Sinaï pour recevoir la Torah. Et si on regarde dans le texte biblique, ça correspond à environ le même temps entre la sortie d'Égypte et l'arrivée au pied du Sinaï, ça correspond environ à 50 jours. C'est dans le 3e mois. Donc c'est vraiment ce que veut dire cette fête de Pentecôte dans la culture juive aujourd'hui, ceux qui pratiquent aussi le judaïsme. Et je vous lis une citation dans le livre juif du Pourquoi, très intéressant si vous posez plein de questions sur le judaïsme. L'érudit du 3e siècle avant Jésus-Christ, Rabbi Eléazar, disait que toutes les autorités sont d'accord sur la nécessité de se réjouir avec de la bonne nourriture et du bon vin à Atzeret, donc le nom talmudique pour Shavuot, parce que ce jour-là, la Torah fut donnée à Israël. C'est dans le traité Pessahim 68b. Et la citation continue en disant « Shavuot fut progressivement associé à la révélation au mont Sinaï, car en tant que fête purement agricole, elle a perdu sa signification. Les Juifs de Palestine sont devenus des citadins, et pour maintenir la fête vivante, il devint nécessaire d'associer la fête de Shavuot avec un événement historique. L'événement choisi fut la révélation, don de la Torah, parce qu'elle a eu lieu environ au même moment de l'année que la célébration de la fête de Shavuot. » On y reviendra sur ces sens. Et bien sûr, celui qu'on connaît le plus, c'est que pour nous en tant que croyants, on croit que Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit, c'est la naissance de l'Église qui est équipée du Saint-Esprit, qui reçoit cette nouvelle nature, cette nouvelle force, cette nouvelle puissance pour annoncer l'Évangile. D'abord aux Juifs, on le voit dans le livre des Actes, l'Évangile est d'abord annoncé aux Juifs, puis à partir du chapitre 10, il est adressé aux non-Juifs. C'est une révolution pour l'époque, pour le monde israélite. Voilà ce que Dieu fait, avec bien sûr des miracles, mais on voit que Pentecôte est aussi beaucoup associé à l'évangélisation, et ça je vais y revenir. Alors voilà un petit peu les sens de Pentecôte que j'aimerais un petit peu ce matin arriver à reprendre ces sens, à les réactualiser pour enrichir notre fête de Pentecôte. Et je me suis souvent posé la question, mais comment ça se fait que dans le monde laïque, qui est en train de laïciser nos fêtes chrétiennes, comment ça se fait que Pentecôte a tellement peu pris, en fait, comme à Noël, il y a le Père Noël, à Pâques, il y a les œufs et tout ça, même si on peut trouver des liens, hein, les œufs, c'est la vie, il y a l'idée de résurrection, voilà, mais c'est vrai que souvent, il y a vraiment un déplacement sur des choses qui ne sont pas l'enseignement de la parole, mais à Pentecôte, il n'y a rien du tout. Je pense que le souffle, l'esprit, la parole, c'est plus difficile à en faire une fête commerciale. Vous êtes d'accord ? Les langues de feu et la descente du Saint-Esprit sont puissantes théologiquement, mais beaucoup moins faciles à vendre en chocolat. Voilà, je crois. C'est mon interprétation. Voilà. Alors, on voit que Pentecôte, très souvent, en tant qu'évangélique charismatique, on réduit cette fête à seulement le parler en langue ou l'action du Saint-Esprit le jour de Pentecôte. Je pense que c'est réducteur. Certes, c'est vrai qu'au début du XXe siècle, il y a eu une puissante action de l'Esprit qui a fondé, qui a amené vraiment des naissances de fédérations d'églises. On pense notamment aux assemblées de Dieu, on pense notamment aux églises de réveil dont nous faisons partie. Il y a vraiment eu un mouvement de l'Esprit au XXe siècle avec la redécouverte du parler en langue. C'était quelque chose d'absolument vraiment remis au goût du jour par le Saint-Esprit. Et c'était vraiment l'action de Dieu qui a permis, je pense aussi, au début du XXe siècle, vous savez que le XXe siècle a connu une explosion démographique mondiale, et je pense qu'il fallait une action de l'Esprit puissante pour toucher le monde entier à ce moment-là. Les plus grands mouvements missionnaires se sont développés à ce moment-là. Vous savez que JEM a commencé dans les années 60. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont touché le monde, et il fallait la puissance de l'Esprit. Donc, on y reviendra, cette notion aussi de mission et d'action de l'Esprit. Malheureusement, on a réduit la fête de Pentecôte à un moment entre chrétiens, entre nos murs, pour être visité pour nous. Et je pense que c'est une réduction. Je pense que c'est beaucoup plus profond aussi avec les différents sens que j'aimerais remettre au goût du jour ce matin. Lorsqu'on lit Actes, on voit la première notion que j'aimerais remettre et qui va aussi avec cette fête agricole de la moisson. C'est cette notion de mission et de moisson dans Acte 2. Quand on voit l'Esprit qui descend dans Acte 2, souvent on retient les langues de feu. On retient que les gens entendent dans leur propre langue natale, leur langue natale justement, et entendent Dieu, des merveilles sur Dieu, donc cette traduction des langues. On retient quelque part ce moment extraordinaire du début du livre des Actes au chapitre 2. Mais si on y regarde de plus près, on voit que, certes, c'est un miracle extraordinaire, mais le miracle plus extraordinaire encore dans Acte 2, c'est la prédication de Pierre qui va amener 3000 personnes à donner leur vie à Jésus. C'est ça le plus extraordinaire. Et dans ce chapitre 2 du livre des Actes, on voit que 46%, si on fait un pourcentage de versets qui sont utilisés, c'est le discours de Pierre qui est un discours d'évangélisation. Pour annoncer le salut, pour annoncer Jésus-Christ, la bonne nouvelle. 46% des 47 versets, enfin, 46% des versets, c'est le discours de Pierre. Et si on regarde le pourcentage de versets pour l'événement miraculeux qui s'est passé, c'est 27 versets. 27%. 46% pour le discours de Pierre, 27% pour l'événement miraculeux. La vraie évangélisation, c'est Pentecôte, puisque c'est là que le Saint-Esprit va remplir ses disciples qui étaient apeurés. On avait tué leur maître, en tout cas à Pâques, et ils étaient en minorité, ce petit groupe. Et voilà que ce groupe de personnes, d'hommes et de femmes, va vivre quelque chose d'absolument extraordinaire qui va déborder dans cette ville de Jérusalem et qui va toucher au-delà de leurs murs, puisqu'ils étaient rassemblés pour Pentecôte dans une salle. Et ce qu'il se passe à ce moment-là, c'est l'accomplissement de cette fête des prémices. En fait, dans l'Ancien Testament, on apportait les prémices, c'est-à-dire les premiers élément de récolte à Dieu, comme je vous disais. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est exactement ça. pour comprendre dans la pensée juive, c'est quoi les prémices ? Les prémices, c'est une pensée juive. C'est de penser comment on pense la Torah. C'est tout un enseignement qui va bien au-delà de la fête de Shavuot. C'est-à-dire qu'il y a cette notion du premier-né. Le premier-né, il recevait plus que les autres. Il y a cette notion aussi que le premier-né était consacré à Dieu. Si on présentait notre enfant, si vous aviez 3 enfants à l'époque, vous présentiez le premier pour le bénir. Et en présentant le premier, tous les autres étaient présentés à Dieu et appartenaient à Dieu. Vous comprenez ? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le premier était mieux que les autres. Ce n'est pas une différence. On ne comprend pas ça aujourd'hui. Hein. On est au jour de la personnalisation des choses. On ne comprend pas qu'on présente le premier-né à Dieu et puis qu'on oublie les autres. C'est inadmissible, ça. Dans une société égalitaire, ça ne va pas. Non, ce n'est pas ça que dit le texte. Hein. Il n'est pas en train de mettre les premiers mieux que les autres. Mais il est en train de dire qu'on peut l'appliquer ça, ce principe des prémices, à votre argent. Quand vous donnez 10%, dans l'Ancien Testament, quand on donne 10% de son argent à Dieu, ça veut dire que tout notre argent appartient à Dieu et qu'on le soumet à l'autorité de Dieu et pas à l'autorité de Mammon. Comprenez ? Et tout ça, c'est un principe dans l'Ancien Testament. Donc quand on apporte les prémices de nos champs, quelque part Dieu va bénir toute la récolte jusqu'à la fin de la récolte. Quand on donne les premiers fruits, c'est aussi on confie à Dieu tout le reste. Ce qui s'est passé à Pentecôte, il y a eu les prémices des conversions. Il y a eu déjà les Juifs qui se sont convertis. La première récolte, le prémisse qu'on apporte à Dieu, c'est juste ces 3000 âmes, c'était tous des Juifs. Il n'y avait pas un non-Juif. Enfin, il y a peut-être qui était là dans cette fête de Pentecôte, qui était de passage, qui étaient des sympathisants de la foi juive, bien sûr. Mais c'est principalement des Juifs, les prémices. Et la parole de Dieu dit que à travers toute l'histoire, des Juifs ont cru en Jésus, des Juifs messianiques. Et un jour, quand Jésus reviendra, selon Romains 11, il est dit que tout Israël sera sauvé. Il y aura une conversion nationale. Acte, c'est aussi, acte 10, les prémices des non-Juifs, maintenant qui sont incorporés au peuple de Dieu. Les non-Juifs qui, séisme dans le monde juif, pour Pierre même, comment ça se fait, Corneille ? Le Saint-Esprit descend sur Corneille, deuxième Pentecôte. Ils n'étaient pas à acte 2, Corneille. Il reçoit le Saint-Esprit, il dit, mais même à eux, le Saint-Esprit leur est donné ? Comment peut-on leur refuser de faire partie du peuple de Dieu, puisque le Saint-Esprit descend sur Corneille avant même qu'il ait fini son discours ? Dieu qui la promesse qui était faite à Abraham, que toutes les nations de la terre seront bénies en toi, est en train de se réaliser. Le Saint-Esprit déborde. Pas des murs maintenant de disciples qui sont dans la chambre haute, mais il est en train de déborder même de la première église juive sur des non-juifs. C'est une révolution, mes amis. C'est ça, Pentecôte. Et voilà, c'est ces non-juifs qui sont incorporés, qui annoncent que l'évangile sera annoncé jusqu'aux extrémités de la terre, dans toutes les nations, dans toutes les tribus, que ce début de moisson, cette prémisse, touchera tous les non-juifs de la terre. Et l'évangile sera annoncé jusqu'aux extrémités. Alors viendra la fin. Alors viendra le retour de Jésus. Tant que l'évangile n'est pas annoncé à tous les non-juifs. Et c'est extraordinaire de se dire que quand Jésus reviendra, il y aura la plus grande moisson qui a jamais eu lieu. Alors certes, aujourd'hui, quand on voit les médias, quand on voit ce qui se passe par rapport à Israël, la Palestine, toutes ces choses-là, on ne comprend pas trop. Mais parce que, mes amis, il y a un combat qui se passe spirituel. Parce que quand Jésus reviendra, qu'il posera les pieds sur le mont des Oliviers, qu'est-ce qui se passera ? Il se passera le plus grand réveil de l'histoire. Des Juifs, mais aussi des non-Juifs. Parce qu'il est dit dans Ésaïe 19, Israël, mon héritage, Égypte, mon héritage. Il y aura une route entre la Syrie qui passera par Israël, qui ira jusqu'en Égypte. Ce que le monde veut faire par la force, Dieu le fera par sa puissance de son esprit. Quand Juifs et non-Juifs, il y aura un réveil mondial à son retour. Et c'est ça que nous croyons. Et c'est ça que nous annonçons dans les prémices. Chaque fois qu'il y a une conversion d'un juif, d'un non-juif, nous annonçons ce réveil final et mondial, cette moisson finale et mondiale. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, de mettre ça en parallèle, la fête des semaines, la fête des prémices, avec Pentecôte, ce qui s'est passé à Pentecôte dans Actes. Je m'emballe. C'est trop passionnant la parole, vous ne trouvez pas ? J'en suis où ? Voilà. Oui, alors, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, il n'a pas seulement pris les prémices, mais il va équiper le peuple de Dieu de ses dons. C'est ça qui se passe. Hein. C'est ça qu'on voit tout le long des livres des Actes. Pour annoncer l'évangile aux non-juifs et aux juifs, il va donner des dons extraordinaires, il va donner une assurance extraordinaire, il va donner une envie de parler de Jésus. Et ça, c'est vraiment un équipement du Saint-Esprit. Quand j'ai été visité par le Saint-Esprit, ce n'était pas un dimanche de Pentecôte. Ce n'était pas dans un grand rassemblement de jeunes. Et je bénis ces grands rassemblements de jeunes comme The Rencontre, c'est magnifique. Que Dieu remplisse ces jeunes de son Saint-Esprit. J'avais 16 ans, c'était une réunion de prière. Petite réunion de prière, quelques personnes. Et le Saint-Esprit est passé. Et il m'a totalement bouleversé. Et quand je suis sorti de... J'étais un peu hors de moi-même à ce moment-là. Quand je suis sorti de ce moment-là, la première pensée qui m'est venue, essayez d'imaginer une petite réunion de prière où c'est un peu le chaos. Il y a des gens par terre qui pleurent, il y en a qui montent sur les chaises, au secours, Seigneur, viens. Enfin, il y avait une action de Dieu, mais c'était un peu... Ça avait l'air chaos, mais c'était juste le Saint-Esprit qui était au contrôle de ce moment-là. Et moi, j'essaie, dans ce petit groupe, de trouver quelqu'un pour prier avec cette personne, parce que la première chose qui vient dans mon cœur, c'est mes amis, j'étais au gymnase, mes copains, sans Jésus, ils sont perdus. Vous voyez, j'étais détourné de moi-même. J'avais un amour pour les perdus. Je me disais, mais c'était pas moi qui créais ça. Saint-Esprit en moi me disait, mais sans Jésus, ils sont perdus. Sans. Et j'étais pas dans une situation facile à ce moment-là, dans mes rapports avec les autres, j'étais plutôt mis de côté. Et j'étais plutôt quelqu'un de timide. Vraiment. Vous avez de la peine à me croire, je sais, mais... J'étais vraiment quelqu'un de très timide, je n'osais pas parler. D'ailleurs, quand je faisais les exposés en classe, je rougissais toujours, et puis les gens disaient « Ah, il est tout rouge !» Je rougissais encore plus. Donc, j'ai prise de parole, zéro. Capacité à parler en public, zéro. Donc, si Dieu a pu faire ça avec moi, combien plus forte raison il va faire ça avec vous si vous avez les mêmes défis. Voilà que j'étais pas dans une situation ou un âge où j'avais envie de parler de Jésus autour de moi, vous comprenez bien. J'avais plutôt envie de dire, surtout, fais-toi discret. Parce que s'ils savent que tu es chrétien, c'est bon, j'ai assez de problèmes comme ça pour m'en rajouter. Donc, j'étais plutôt dans une attitude de me dire, oh, on va pas trop en parler. En plus, j'habitais dans une communauté chrétienne, alors c'était encore pire. J'avais vraiment tous les voyants rouges là pour se dire, quoi, tu es dans une communauté chrétienne, c'est une secte, c'est quoi ce truc, etc. Donc, mais là, quelque chose s'est passé. J'avais tellement l'amour de Jésus pour eux. Alors, je ne suis pas devenu un champion du discours. Hein. Ce n'est pas dire que je parlais de Jésus super bien, que j'étais un évangéliste. Mais j'avais quelque chose qui brûlait dans mon cœur, une urgence pour eux. Je ne peux pas expliquer ça. Gloire à Dieu. L'amour pour les perdus. C'est ça, Pentecôte. C'est la mission. On entre, c'est la capacité, l'assurance d'entrer dans cette mission et de pouvoir proclamer la parole de Dieu. Il y a ce verset qu'on connaît bien, car c'est l'Esprit de Dieu qui nous a donné et nous rend, car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, ne nous donne pas de peur. Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, c'est dynamis en grec, vraiment un aspect de la puissance, d'amour et de maîtrise de soi, ou de sagesse selon les traductions. Sans la cette puissance de Dieu que Dieu déverse en nous, cette assurance, si elle n'est pas accompagnée de l'autre aspect du Saint-Esprit qui est l'amour, ça fait des dégâts. Si cette puissance n'est pas accompagnée de la maîtrise de soi, de la sagesse, ça fait du dégât. Mais nous avons besoin de cette puissance, de cette force qui vient de Dieu. Et Pentecôte, c'est vraiment la naissance de l'Église, mais c'est surtout, j'aimerais que vous reteniez ça dans ce premier point, c'est surtout une bombe nucléaire spirituelle. Vraiment une bombe nucléaire spirituelle dans le monde et qui est tombée sur ce petit groupe. Et en seulement quelques centaines d'années, ce petit groupe a changé un empire, l'Empire romain. Un auteur, un sociologue chrétien qui a écrit l'essor du christianisme des premiers siècles est frappé de voir la progression numérique si rapide des chrétiens, ils ne constituaient qu'un petit nombre au départ, et en à peine 3 siècles, ils étaient si nombreux que l'empereur Constantin, à l'époque, s'est dit, mais c'est une force politique. Il faut que je les intègre. Surtout que l'Empire romain était sur le déclin avec l'invasion des barbares. Il s'est dit, je pense qu'il y avait un petit calcul politique là, il s'est dit, il faut que je les intègre. Et du jour au lendemain, il y a eu l'édit de tolérance, mais après, le christianisme est devenu religion d'État et toutes les autres ont été interdites. Vous imaginez ? Ce petit groupe de personnes, c'est devenu la religion d'État. Alors, ça a produit d'autres problèmes, mais j'aimerais juste vous montrer la puissance d'un petit groupe. S'il est rempli du Saint-Esprit, il a pu produire cette immense moisson au niveau de ce pays, de ce royaume romain. Pentecôte, c'est aussi la transformation. Alors, on l'a vu tout à l'heure que Pentecôte, chez les Juifs, c'est le don de la Torah. C'est ce moment où Moïse monte et reçoit la loi de Dieu, la révélation de Dieu. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Hein. C'est extraordinaire. Dieu qui dit ce qu'il veut, qui nous dit, qui nous l'écrit dans sa parole. C'est extraordinaire. Et ceci est 50 jours après Pâques, après la sortie d'Égypte. L'Ancien Testament, c'est, on pourrait résumer, la Torah, la parole de Dieu qui est donnée. Et le Nouveau Testament, si on schématise, on pourrait dire, c'est l'Esprit de Dieu qui est donné. C'est un équilibre entre la parole de Dieu, révélée, écrite, et l'Esprit qui est aussi donné. Les deux ont été donnés par Dieu. L'un sur le Sinaï, l'autre qui est descendu du ciel sur l'Église à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est la loi de Dieu, l'Ancien Testament ? Parce qu'on peut aimer Dieu, il y a plein de gens qui ont des expériences extraordinaires, mystiques même. Les bouddhistes, les musulmans, beaucoup de religions expérimentent des choses spirituelles. Mais l'Ancien Testament nous a donné la volonté de Dieu. Dieu, bien sûr, on peut vivre des choses avec lui, mais il y a une volonté, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule volonté. Et la loi le dit, explique cela. La loi nous dit comment être devant Dieu, comment vivre pour lui. C'est les critères d'exigence de Dieu dans nos vies. Et on voit que Dieu a donné ça à son peuple, Israël. Et le peuple n'a pas pu le mettre en pratique. Le peuple a pratiqué les sacrifices, a loué le Seigneur, mais n'arrivait pas à changer sa nature pécheresse. Le peuple fraudait, volait, parlait mal. Le peuple vivait dans l'adultère, dans l'amour de l'argent. Et ça, c'est contre la loi de Dieu. Et quelque part, ils n'ont pas réussi à vivre les exigences de Dieu. C'était un échec. Et c'est pourquoi Dieu savait, sachant cela, avait déjà annoncé une ère messianique, un moment où il écrirait la loi dans notre cœur. Et ça, il le dit avec le prophète Jérémie. Voici que les jours viennent où je vais faire une nouvelle alliance. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Car je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Extraordinaire. Pentecôte, c'est Dieu qui écrit la loi qui était écrite sur des tables de pierre. Maintenant, il l'écrit sur des tables de chair. Amen. C'est ça, Pentecôte. Pentecôte, c'est l'Esprit qui vient appliquer la parole de Dieu dans nos vies pour qu'on puisse la vivre, qu'on puisse la mettre en pratique. C'est ça, Pentecôte. Quand j'ai vécu cette visitation de l'Esprit, il s'est passé trois choses fondamentales que je n'oublierai jamais et qui ont été durables. Après, il y a toujours besoin d'un renouvellement et de revivre ces choses, mais vraiment trois choses qui ont changé ma vie à ce moment-là. J'ai développé un esprit de prière que je n'avais pas. Avant, quand je priais, Je m'asseyais, je réfléchissais, ouais, Seigneur, ah ouais. Après, je pensais à autre chose, tac, tac, tac. Quand j'ai vécu cette expérience, j'avais une assurance dans la prière, une autorité dans la prière que je ne connaissais pas. Et quand j'avais plus d'idées, je parlais en langue, et après, hop, une pensée du Saint-Esprit qui vient, et je repartais dans l'intercession intelligible, compréhensible. Ma vie de prière a totalement changé. Quand j'ai vécu cette expérience, je vous l'ai dit, j'ai eu envie de témoigner ce que je n'avais pas du tout envie avant. Mais c'est passé quelque chose de très particulier. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais j'avais envie, et mettez-vous dans mon contexte, j'avais 16 ans, j'avais envie de lire la Bible. Je dévorais la Bible pendant des heures. Je me disais, mais attends, mais il y a un problème, Christian. Je ne comprends toujours rien, mais je lisais. Des dimanches après-midi, je me souviens, on vivait en communauté, on jouait souvent avec les enfants des autres familles, on faisait du foot, on faisait des activités sportives. Avant, j'aimais bien aller là-bas. Là, je n'avais plus envie d'y aller. J'avais envie de lire la Bible. Je lisais des livres sur la foi. J'avais faim et soif de la parole de Dieu, de comprendre qui est Dieu, de comprendre sa parole. Et je me souviens que même pendant mes vacances, parce qu'on avait un centre de formation missionnaire et biblique, et ils donnaient des cours et des enseignements, il y avait des profs qui passaient. J'allais pendant mes vacances aller prendre des cours bibliques. Il n'y a pas mes parents qui étaient derrière pour me dire « fais ça hein. ». Mes amis, vraiment, on a besoin de ça. Notre génération a besoin de ça. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait, on va créer juste des gens religieux. On va juste créer des gens qui... Allez, il faut lire ta Bible tous les matins, il faut faire ci, il faut faire ça. On va juste créer, et puis ils ne vont pas la comprendre plus. Et puis, ça va juste faire du dégât dans leur vie. On a besoin d'une Pentecôte dans nos vies. On a besoin de la puissance de Dieu. L'Ancien Testament nous montre la loi. C'est le don de la Torah au Sinaï. Mais c'est l'échec de la nature pécheresse. Le Nouveau Testament nous donne le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'accomplir cette loi en nous donnant une nature nouvelle, en nous donnant une identité nouvelle. Vous savez, il y a beaucoup de juifs qui sont très croyants, connaissent très bien l'Écriture, mais ne peuvent pas changer leur nature sans Jésus. Et il y a beaucoup de chrétiens, ils ont une nouvelle nature, mais ils ne connaissent pas la loi de Dieu, ils ne connaissent pas la Bible. C'est comme si on leur donne un pistolet, ou comme si on leur donne une bombe nucléaire dans les mains et puis ils ne savent pas du tout la gérer, quoi. Ils vont faire plus de dégâts qu'autre chose. Nous avons besoin des deux, de la parole et de l'esprit. Trop souvent, on pense que la nature nouvelle suffit. Ok, je suis une nouvelle créature en Christ. Mais il faut savoir qu'est-ce que Dieu me demande de faire pour pouvoir mettre en pratique par le Saint-Esprit ceci. Vous savez, on pense que dans le Nouveau Testament, tout est grâce, c'est merveilleux. Puis que l'Ancien Testament, il ne faut plus le lire. Mais Jésus, pendant son temps ministère terrestre, il a monté d'un cran la loi. Parce que le serment sur la montagne, le Saint-Esprit n'est pas encore donné à ce moment-là. On est du temps de Jésus. Le Saint-Esprit sera donné dans Acte 2. Jésus n'est pas encore monté au ciel, n'est pas mort et ressuscité. C'est quand il monte au ciel, dans l'ascension, qu'il envoie le Saint-Esprit. Donc on est du temps du ministère terrestre de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit dans le serment sur la montagne? Mais lisez. Il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, humainement, vous ne pouvez pas pratiquer la loi de Dieu. Et il renforce cela par plein d'exemples. Vous pensez que vous n'êtes pas meurtrier, vous êtes un gars bien. Mais moi, je vous dis que celui qui insulte son frère a déjà commis un meurtre. Jésus monte le niveau d'exigence par rapport à l'Ancien Testament. Parce qu'on peut se dire, moi, vous savez, j'étais enfant de missionnaire, j'ai grandi dans un milieu un peu protégé, j'ai l'impression que j'étais un gars bien. Mon plus grand crime, c'est d'avoir joué au baby-foot pendant les réunions. Comme des fois nos jeunes en bas avec la table de ping-pong. Je pensais que, voilà, je me mettais au fond des fois des réunions, puis je rigolais de l'expression d'un tel ou du frère, ou des mêmes prières qui reviennent, vous savez, dans notre liturgie, des prières du dimanche matin, et tout ça. Donc j'en rigolais du fond de la classe, du fond de la salle, bien sûr, pas de la classe. Et je pensais que j'étais un gars bien, jusqu'à ce que je fasse une rencontre avec le Saint-Esprit, et que là je vois à quel point je suis pécheur, mon cœur est mauvais et que je ne veux pas le changer. Parce que c'est ça que le sermon sur la montagne produit en nous. Quand on le lit, on dit, mais attends, mais on ne va jamais y arriver. Qu'est-ce que ça produit en nous? Ben, on court vers Jésus. Il n'y a que lui qui peut nous sauver et qui peut nous donner l'esprit pour accomplir le sermon sur la montagne. Mais il nous faut l'accomplir, le sermon sur la montagne. Il ne nous a pas donné l'esprit pour rester dans l'état dans lequel on est. Il nous a donné l'esprit pour accomplir, pour être transformé. Trop souvent, on se contente des guili-guili de la présence de Dieu. Mais on ne se laisse pas transformer dans notre vie de tous les jours. Et c'est là qu'il y a beaucoup de décalage entre ce qu'on prie le dimanche matin et ce qu'on vit la semaine. Et ça ne donne pas un bon témoignage pour ceux qui nous voient vivre la semaine, dans nos maisons, dans nos chambrées, dans notre vie de tous les jours. Et c'est là que Dieu veut nous transformer, pas le dimanche matin. Jésus met la barre très haute. Jésus, c'est celui qui a accompli toute la loi. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Il accomplit la loi et il nous donne la capacité d'avoir le Saint-Esprit. C'est grâce à Jésus, parce que Jésus a été l'homme parfait, que nous pouvons avoir le Saint-Esprit, mais pour qu'on soit transformé. Et maintenant, c'est la marche chrétienne où l'Esprit de Dieu vient nous aider tous les jours à mettre en pratique cette loi. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que on a un nouvel héritage en Christ qui n'est plus l'héritage en Adam. On n'est plus obligé de tomber dans les mêmes travers perpétuels que nous avions, nos péchés invétérés. Nous ne sommes plus obligés d'entrer dans ces cercles qui nous détruisent, dans ces fonctionnements relationnels, dans ces fonctionnements identitaires qui apportent de la discorde, qui apportent de la dispute, qui apportent de la souffrance, de la jalousie, qui détruisent nos vies. Les héritages générationnels qui nous font toujours tomber dans les mêmes travers, qui sont des fois plus forts que nous, où on n'y peut pas toujours grand-chose, peuvent être renversés. Alléluia. Comme le dit Colossiens, avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous rend capable de vivre une autre vie que la vie où on voit que dans certains domaines de nos vies, ça ne va pas. Pentecôte, c'est tout est possible. Tout est devenu possible. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Pentecôte, c'est un formidable message d'espoir pour l'humanité. Quand on a tout essayé, quand on est allé voir tous les médecins, qu'on a tout dépensé, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il peut aussi guérir. Quand on a vu tous les psychologues pour notre souffrance, notre dépression, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il peut aussi nous en sortir. Alors, je ne suis pas en train de dire que les médecins, les psychologues, ce n'est pas bien. C'est mauvais. Non, merci Seigneur pour les médecins. Merci Seigneur pour les psychologues. Merci Seigneur pour la médication quand on n'arrive pas, quand on n'est pas libéré. Vaut mieux avoir ça, ça nous stabilise. Merci Seigneur pour tout ce qui existe. Mais on peut vivre plus avec le Seigneur. On peut vivre plus avec le Seigneur. Parce qu'on a accès à l'Esprit de Dieu, mes amis. On a Dieu avec nous. Dans mon couple, dans ma vie, dans ma famille, dans ma manière d'agir. Un autre vis-à-vis qui m'aide à voir différemment et à changer, pour autant qu'on se laisse diriger par lui, pour autant qu'on n'accepte pas le mensonge dans nos vies. La puissance du Saint-Esprit, promise en acte, est donnée pour vivre une vie merveilleuse. Et ça, c'est aussi la bonne nouvelle de l'Évangile. Parce que si nous vivons cette transformation, ça donnera envie au monde. Ils diront, mais t'as changé. On le voit dans nos chemins de conversion. Des fois, comme on a des fois changé, il y a des choses qui ont changé. Je me dis, mais comment? Qu'est-ce qui a changé chez toi? J'ai envie. Parle-moi, qu'est-ce qui fait que tu es comme ça maintenant? Je te connaissais avant et maintenant je te vois. Qu'est-ce qui fait que t'as changé? Vous savez, il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Hein. Si on vit vraiment l'authenticité, une vie authentique, une vie de transformation, ça donnera envie à tout votre immeuble de devenir chrétien. Amen. Si, Et c'est cette bonne nouvelle-là, c'est ça l'évangile, c'est ça qu'il nous faut communiquer, c'est tout. Et si nous ne vivons pas cela, alors nous ne sommes pas témoins de ces choses et nous ne pouvons pas l'annoncer à ceux qui nous entourent. On ne peut pas être témoin de quelque chose qu'on n'a pas vécu ou vu dans nos vies. Le temps passe, j'aimerais vous citer un livre extraordinaire qui vient de sortir. C'est Jean-Pierre qui a écrit ce livre. C'est la vérité dans ce monde ébranlé que j'ai commencé à lire. Voici ce que dit Jean-Pierre dans son livre. Il dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Les chrétiens en communauté d'église sont les seuls qui aient reçu ce mandat avec la capacité de l'accomplir. L'humain sans l'Esprit de Dieu ne peut rien pour le règne de Dieu. On ne peut rien faire. Ce que dit Jean 15. Sans moi, vous pouvez rien faire. Ce que Jésus a inauguré est la propagation d'une qualité de vie nouvelle, proprement divino-humaine, et d'une extension géographique comprenant toute la planète. Personne d'autre n'a reçu cette mission, sinon celles et ceux qui appartiennent à Christ. En êtes-vous ? C'est la question que je vous laisse ce matin. Nous avons besoin de toute la Pentecôte, de la parole et de l'Esprit. Nous avons besoin de rien d'autre. Rien d'autre. Pentecôte, moisson et mission, c'est la fête agricole de Shavuot. Pentecôte, don de la Torah, c'est la transformation. Et Pentecôte, c'est le début des derniers jours. Dans Acte 2, Pierre cite, et je terminerai par ça, Pierre cite Joël qui dit, le prophète Joël, « Dans les derniers jours, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Pas des sondes comme quelqu'un avait dit une fois. C'est terrible. Quelqu'un qui avait prié sans faire exprès avait dit ça. Oui, du coup, je n'arrive plus à m'en sortir, j'arrive plus à l'oublier. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Alléluia. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans ces derniers temps. Cette dernière effusion de l'esprit qui dure depuis 2000 ans, oui, il est vrai, mais qui correspond au dernier jour avant son retour. Alors ne nous privons pas de la vie de l'esprit, car nous en avons besoin jusqu'au retour de Christ. Et nous en aurons besoin pendant la grande tribulation qui vient. Et dans la période, c'est vrai que nous sommes, qui n'est pas facile aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite juste à prier les uns pour les autres. Je voulais prendre ce dernier chant parce que je trouvais que si Laurent, tu veux juste prendre ce dernier chant, je vous invite à vous lever, à vous mettre juste deux par deux ou par trois et juste vous bénir et de dire appelez vraiment la transformation sur nos vies. Appelez vraiment l'équipement sur nos vies parce que ce Saint-Esprit, il est en vous. Alors je vous invite à vous lever et pendant qu'on prend ce chant qu'on a chanté tout à l'heure, que je trouvais qu'était vraiment de circonstance. Viens Saint-Esprit dans nos campagnes.